Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
400 spécialistes du numérique réunis pendant 3 jours pour trouver des solutions algorithmiques au terrorisme. Je vais un peu vite, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. L'événement, des 15, 16 et 17 janvier, était organisé par la mairie de Paris et abrité par l'école 42, le fameux lieu créé par Xavier Niel, la seule école gratuite d'informatique où on peut entrer à tout âge, avec ou sans le bac. Ce hackathon, comme s'appellent les réunions de geeks et de développeurs pour cogiter un maximum en un temps restreint, ce hackathon donc était placé sous l'œil bienveillant de la préfecture de police. Puisque le but, c'était de trouver des nouvelles applications ou des logiciels pour venir en aide aux victimes, aux citoyens en général, en cas d'attentat. La rencontre s'est déroulée 2 mois exactement après les attentats du 13 novembre et s'est donné un nom de circonstance, NEC Merguitour. 6 défis étaient proposés à la créativité des équipes qui devaient imaginer des algorithmes pour lutter par exemple contre la propagande djihadiste, prévenir de la radicalisation, concevoir ou diffuser, ou les deux, des contre-discours. Les équipes devaient aussi chercher des moyens de détecter automatiquement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux en temps réel, en diffusant notamment des contre-discours aussi. Des défis plus techniques étaient proposés, comme le désengorgement des numéros de secours en cas de catastrophe ou d'attentat par un autre canal que celui des plateformes, le 17, le 18 ou le 112. Aujourd'hui donc, suite de notre semaine numérique, avec une journée au hackathon de l'école 42, c'est jusqu'à 14h, vive les algorithmes, un reportage d'Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Lemon Tree, mon équipe, donc on s'est formé il y a à peu près 48 heures, on a travaillé pour trouver une solution à ce problème de priorisation des appels lorsqu'il y a un afflux massif d'appels dans les centres d'urgence. Avec Lemon Tree, on a trouvé une solution qui va nous permettre d'anticiper, avant même que l'opérateur ne décroche son téléphone, l'intensité de la gravité de la situation. Comment ça se passe concrètement? Vous passez un appel. Il y a un afflux dans les centres. Il y a une réponse automatique. Bonjour monsieur, nous avons bien pris en compte votre appel. Merci de nous expliquer votre problème. Surtout, ne raccrochez pas. On va mesurer le taux de stress de la voix. C'est une technologie qui existe déjà, qui s'appelle Bad Voice. On va faire une analyse sémantique. On va prendre les mots un peu importants dans ce message. On va enregistrer les bruits de l'environnement. Est-ce qu'il y a des bruits de gyrophares? Est-ce qu'il y a des bruits de voiture? Est-ce qu'il y a des bruits d'explosion? Ensuite, il y a un algorithme qui va récupérer toutes ces données et qui va attribuer un score d'intensité à cet appel. Tout cela va ensuite apparaître sur un tableau de bord au niveau de l'opérateur. En même temps, on aura une géolocalisation de chaque appel sur une carte de Paris. Dans le cas de Germaine, son mari appelle, il tombe sur le répondeur automatique. Oui, bonjour, c'est le mari de Germaine, elle a été renversée, c'est terrible, on est à Mieux d'Italie, aidez-nous. Bam, analyse des différentes données. Stress de la voix, il est très stressé. On a une dame qui a été renversée, on est à Mieux d'Italie. L'algorithme se met en route et va attribuer un score d'intensité à l'appel du mari de Germaine. Un score d'intensité de 98, donc qui est bien supérieur à 90. Il va donc se retrouver tout en haut de la liste des top urgences. Germaine est sauvée, elle retrouve son mari le soir même. Tout le monde est heureux.
Bah, son pitch a été excellent, il a été très crédible. Elle a prétendu que l'application existait pour bien vendre. Comme si elle existait, c'est normal. Donc on l'a cru, donc c'est bonne vendeuse, quoi. Mieux vaut avoir un discours convaincant quand on n'a rien à vendre qu'un mauvais discours quand on a quelque chose à vendre, ça, tant qu'à faire. Ah non, mais faut pas tuer l'ours avant d'avoir vendu la peau, quoi. Un hackathon, en anglais, l'étymologie, c'est hacker, c'est bricoler. Donc ça évoque une sorte de marathon du bricolage. Ça dure plusieurs jours. Et puis, on a des défis au départ et on doit les réaliser en équipe. Voilà. Moi, je fais partie du groupe humain ici. On a constitué une petite équipe pour un défi en particulier. C'est comment discerner les appels, les situations vraiment importantes parmi une multitude d'appels. C'est la mairie de Paris qui propose de travailler collectivement, gratuitement, quoi, pendant un week-end sur des sujets de sécurité civile, en quelque sorte, ou de police, ou de communication, etc. Suite aux attentats, oui, c'est vrai.
Alors, on m'a dit de faire un pitch, un elevator pitch. Un elevator pitch, c'est le moment qu'on met à pitcher une idée entre le moment où on monte dans un ascenseur avec des investisseurs et le moment où on arrive au dernier étage, l'étage des investisseurs. Donc on m'a dit, Victoire, fais un elevator pitch et tu parles à des investisseurs. Donc, moi, quand je parle à un investisseur, je lui explique que la société est formée, qu'on a des associés, qu'on est complémentaires, que notre produit est fini et qu'on a besoin qu'il investisse dans notre projet. Voilà. D'où le fait que j'ai joué sur le fait que notre société, Lemon Tree, était déjà montée. Lemon Tree, c'est comme la chanson des Fool's Garden. Il y a le mot tree dedans. Il y a le citron qui est un agrume, qui est quelque chose de péchu et qu'on va ouvrir, qu'on va développer en quartier, qu'on va trier. Voilà, on va prendre un citron, on va le trier. Et puis dans la chanson, ils disent « I wonder why and I wonder how ». Et c'est un peu les questions qu'on va se poser quand on reçoit un appel. Donc, je me demande pourquoi et je me demande comment. Voilà. Moi, j'ai 25 ans, le 10e arrondissement, le 11e arrondissement, le Bataclan, les terrasses de Paris, c'est des endroits où je suis les samedis soirs, les vendredis soirs, donc je suis personnellement touchée par ce qui s'est passé. Je trouvais que c'était un super beau projet, j'ai trouvé ça génial. Et puis transformer le hackathon, qui est quelque chose d'un petit peu négatif à la base, parce que c'est quelque chose avec des hackers qui cherchent un peu à bouger les lignes, un hackathon de façon très positive, dans un but qui nous dépasse un peu tous, j'ai trouvé que le projet était top. Alors nous, on a eu l'idée ce matin. Alors là, il est, je crois qu'il est 13h, donc on bosse dessus depuis peu de temps. Là, on est vraiment au tout début du projet. Alors je pense que si la préfecture de police trouve que l'idée est bonne, de monter ça avec des ingénieurs, des data scientists, les forces de secours, réussir à avoir des insights, un peu de tous les gens, des insights, ce serait des avis, des rapports de tous les gens qui sont tous involved. Je parle en franglais, c'est terrible, de tous les gens qui sont tous inclus dans ces situations et puis réussir à créer l'algorithme qui va nous permettre de trier les appels. Le projet est au tout début, hein. Finalement, c'est une idée. Après, j'espère qu'on pourra mettre ça au point. On s'est tous pas mal pris au jeu, finalement, et je pense qu'on va travailler un peu tard, ouais.
Entre une team qui affine notre board et notre solution technique, est-ce qu'on ne se divise pas? Vous qui avez plus ces connaissances techniques, vous travaillez là-dessus et nous on continue à affiner tout ce qui est présentation.
Mais en même temps, il faudra forcément retravailler la partie présentation de la solution technique qui est celle
détail, effectivement, comme elle dit, le squelette, ça restera toujours le même avec le storytelling, etc.
Je me suis trouvé dans la situation en fait où ma compagne faisait une crise d'angoisse chez moi. Le 13. Moi j'étais, parce qu'elle savait que j'étais dehors en fait, j'étais dans la rue. Donc j'étais boire un verre, j'étais pas loin de la rue de la Fontaine-Roi. Donc quand j'ai pris conscience de ce qui se passait un peu après 10h, que je suis sorti de l'endroit où j'étais, parce que les gens n'étaient pas au courant encore à ce moment-là, on était derrière un cordon de policiers avec le pote avec qui je mangeais. On est sorti de ce cordon. Et là donc j'ai ma compagne au téléphone, elle est en crise de panique. La préfecture dit. Bougez pas de l'endroit où vous êtes. Bon, bah, moi, je suis dans la rue, derrière un cordon de policiers. Je me dis, je vais quand même essayer de rentrer. Et là, je savais pas, en fait, où aller. Et donc, j'aurais bien voulu qu'il y ait eu, j'ai pas trouvé les informations sur les réseaux sociaux qui me permettaient de savoir si c'était dangereux ou pas de rentrer chez moi. Si ce n'est, restez où vous êtes. Mais c'était sans doute une bêtise de ma part, mais j'ai pris la décision de pas attendre où j'étais. Et donc, je suis rentré. J'habite pas loin de Parmentier, donc pas très loin du Bataclan. Et voilà, et donc moi cet aspect de savoir un peu ce qui se passe et est-ce que pour moi citoyen lambda c'est dangereux d'aller dans cette direction maintenant. Voilà, donc moi ce truc là me parlait pour ça. Alors le but de l'application, Au niveau des centres de décision et de contrôle de la police, qu'ils puissent avoir grosso modo une carte avec des points qui apparaissent dessus qui disent incident signalé à tel endroit. Donc ça veut dire que la machine en elle-même, elle a mouliné derrière pour déterminer qu'il se passait peut-être bien quelque chose là. Et donc si jamais ils n'ont pas déjà quelqu'un en route, qu'ils puissent envoyer quelqu'un et très vite soit dire non, c'est une rumeur, il ne se passe rien, et éventuellement le dire publiquement, parce que les mouvements de panique c'est dangereux aussi. Soit s'il se passe quelque chose, pareil, réagir, puis mettre au courant, enfin donner des instructions de sécurité, faire ce qu'il faut, quoi. Là, je vais faire une petite page HTML avec une carte interactive dedans pour qu'on puisse montrer comment les événements s'affichent sur une carte.
Une carte de Paris ?
Une carte de Paris, oui. En reprenant les tweets du 13 pour montrer ce qui aurait été visible et à quel moment, avec la manière de traiter les données qu'on est en train d'essayer de mettre en place.
J'ai envie de lancer un portail qui fait, l'équivalent de... qui fait en tout cas la promotion et surtout la vulgarisation d'applications pour que monsieur, madame, tout le monde puisse trouver des applications intéressantes à explorer dans ce monde-là et donc réduire encore plus cette fraction entre les générations et les outils et technologies.
Une application pour faire le choix entre plusieurs applications.
Exactement, oui. Trouver des applications, trouver des gens qui aiment cette application parce qu'on peut partager des infos autour de l'application. Puis je pense que c'est un système vertueux pour tout le monde. Moi, j'ai commencé à coder, j'étais encore au lycée. La première chose que j'ai fait, c'était une bataille navale sur une Texas Instruments qui s'appelait la TI-57. Je me suis retrouvé à donner des cours d'informatique à l'époque. J'étais encore au lycée.
C'était où ?
C'était en Algérie. J'ai même donné des cours au Centre culturel français à Oran. Ensuite, j'ai continué à faire mon métier, donc le chef de projet. Et puis après, je me suis retrouvé directeur de projet. J'avais remporté, par exemple, un appel d'offres pour la Caisse de sécurité sociale du Maroc. Et ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'il y a eu de la pression, on va dire. Ensuite, je suis parti en burn-out. Donc j'arrivais plus à savoir où trouver le BIP pour ouvrir le portail. Par exemple, je sortais ma carte bleue, j'essayais d'appuyer sur la carte bleue pour ouvrir le portail, puis ça ne marchait pas. Et puis j'essayais de me dire, bon, il y a un truc qui déconne, et puis j'arrivais plus à retrouver. Donc voilà, j'étais en perte de... Mais vraiment, les connaissances cognitives commençaient à partir, et je commençais à ressentir un danger pour ma vie. Parce que je conduisais, je faisais une heure le matin, une heure le soir en voiture, en campagne, etc. Et donc, j'ai été voir le médecin en disant, je ne fonctionne plus en état normal et tout. Donc lui, il a vu que j'étais complètement effondré. Donc il m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit, vous arrêtez tout de suite. Il m'a arrêté. Je pensais que c'était juste une petite crise passagère. Et en fait, suite à cet arrêt, c'est là où j'ai replongé, en fait. Et ça ne s'est pas arrangé au bout de quelques mois. C'était toujours pas revenu. Donc je sentais que mes capacités n'étaient toujours pas en retour. Au bout de 6 mois, donc, je reçois une convocation pour un entretien préalable. Et puis c'est là où on m'annonce que c'est la fin des haricots. Et donc j'étais licencié. Donc voilà comment ça s'est arrivé. Ben là, ça fait 1 an et 3 mois maintenant que je suis au chômage. C'est vrai que moi, suite à cet épisode, donc entre maladie, licenciement, etc., j'étais pas à même de pouvoir réintégrer un poste en pleine connaissance de mes moyens. Donc il a fallu encaisser tout ça, déjà retrouver une santé, ensuite retrouver un moral, etc. Et juste à ce moment-là, il y avait cette annonce faite par Pôle emploi en disant, voilà, on veut lancer un concept d'une expérimentation, un concept de formation nouveau pour des seniors informaticiens, alors soit informaticiens purs et durs, soit des gens qui étaient dans l'informatique et à qui on va donner une formation moderne comme la pratique aujourd'hui de manière précurseur 42. Cette expérimentation me permet, moi, de retrouver mes moyens, de reprendre confiance en moi, parce que c'est ça qui a été surtout attaqué dans ma personne et dans mon psychisme, dans mon système. Je sens bien que ça revient parce qu'il y a des réflexes qui se développent et je retrouve une dextérité. La preuve, c'est que je fais partie du top 3 ou top 4 des équipes qui sont derrière moi. Donc c'est une satisfaction personnelle dans le sens où ça me permet, moi, de dire bah, finalement, t'as pas tout perdu, regarde, c'est en train de revenir et donc ça me redonne confiance en moi.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, on m'a expliqué pour le BSS, enfin celui qui est juste après. Oui, celui-là. Mais le Basic 5, j'ai essayé, il est très très compliqué. En fait, le BSS là, celui qui est là, en fait, il faut un bot, je suppose, avez-vous. Et en fait, il faut que tu aies un bot qui va te faire segfault. Mais en fait, le bot, il faut le lancer et après le killer. Parce que en fait, si tu kills pas le bot, ça continue et ça marche jamais. Parce qu'on m'a montré, j'ai compris à peu près, mais je vais continuer.
Bonjour à tous, on va essayer d'être très synthétique, mais s'il y a des questions, on a une petite annexe après pour ceux qui veulent. Donc notre sujet de départ, c'était la prévention pédagogique contre la radicalisation. Notre solution, ce serait un jeu vidéo qui permettrait de prévenir la radicalisation en permettant le développement de l'esprit critique et du libre arbitre. On s'est inspiré pour ça des blockbusters américains à succès chez les adolescents. Le personnage est libre de se déplacer à sa guise dans les différents secteurs. Il a, ceci dit, sur son écran, une jauge du libre arbitre. Cette jauge, elle évolue en fonction des actions qu'il réalise. En fonction de ses actions, la jauge de libre arbitre peut baisser. L'objectif, c'est évidemment qu'elle monte, mais elle peut baisser. Cette baisse a une conséquence directe sur l'environnement. L'environnement va se noircir et il sera beaucoup plus difficile pour le jeune d'évoluer dans le jeu. Et il sera plus vulnérable aux opposants qui peuvent se trouver dans le jeu. La victoire, elle permet à la fois une reconnaissance pour le jeune et un accomplissement héroïque dans le monde virtuel. Tout le concept repose sur la frontière poreuse qui existe aujourd'hui entre la vraie vie et les jeux vidéo. C'est-à-dire que les comportements qu'on adopte dans les jeux vidéo, à force d'habitude, vont pouvoir se répercuter dans la vraie vie sans pour autant que le jeune en soit conscient. Donc on cherche à l'amener au questionnement.
Là, on est parti sur le thème, donc je ne sais pas si vous connaissez le thème, mais c'est le thème numéro 2, donc c'est le désengorgement des centrales d'appel en cas d'affluence, en cas de gestion de crise. Donc on a mis en évidence une attaque de zombies, mais pour rester neutre, entre guillemets. Donc en cas d'attaque de zombies, l'utilisateur se saisit de ton téléphone tout en courant, bien sûr. Enfin, j'espère pour lui. Et donc, il saisit au final, est-ce qu'il est victime, est-ce qu'il est témoin ou est-ce qu'il a juste un contact visuel et donc du coup il n'a pas d'informations en plus à donner. En fonction de son choix et de la gravité donc, de la situation, d'autres choix lui sont proposés, donc atteinte directe ou indirecte pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et donc du coup ça déclenche l'appel, de la centre d'appel. Donc si on est en cas de gestion de crise, en cas d'attaque de zombies, les standards sont occupés, l'utilisateur reçoit une notification. Comme quoi 1700 personnes ont déjà déclaré une attaque de zombies, donc du coup il n'est pas obligé de faire suite à son appel quoi. Sinon après si c'est la première personne qui appelle, là il peut effectivement prendre une photo du zombie et l'envoyer pendant le temps d'attente ou ce genre de choses.
Alors moi je vais vous présenter Navarro Hotline. Donc on est venu dans le hackathon avec l'ambition de réaliser un projet concret, un prototype fonctionnel, un petit prototype. Donc David, mon coéquipier, va lancer les serveurs. Voilà. Donc on répond à trois problématiques au niveau des appels d'urgence. Premièrement, l'engorgement. Moi j'ai déjà téléphoné sans que ça soit une crise particulièrement importante et j'ai déjà eu à attendre 20 minutes au téléphone. Tout ça pour entendre au final qu'il y avait déjà mon appel qui avait été pris, on savait déjà qu'il y avait un problème. Donc ensuite, il y a des situations où il ne faut pas se faire remarquer. Donc parler au téléphone, bah, c'est un problème. Et donc il faut utiliser d'autres moyens de communication. Notre solution, c'est de faire le 112 numérique. C'est-à-dire c'est la même chose que le 112, sauf que c'est avec des textos et Twitter. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Évidemment, il n'y a personne au bout du clavier, parce que sinon ça serait la même problématique humaine. En réalité, c'est un bot, donc un programme informatique, qui va répondre. Je vais faire la démo. David, tu confirmes que c'est bon ? Je peux y aller ? Ok. Donc là, j'ai un numéro de téléphone, notre centre d'appel qui est ici. Et je vais faire, par exemple, accouchement. Je suis une femme qui accouche. Et perte des os. Alors, je mets mes mots-clés. Je me dépêche. Immédiatement, il m'envoie le SMS pour trouver ma localisation. Donc, il me dit, on sait où vous vous trouvez. Ça m'évite de dire, je suis à côté d'un monoprix, je ne sais pas vraiment où je suis. En deux clics, j'ai donné ma position au maître près. Il me confirme qu'il a bien reçu ma position. Finalement, c'était une fausse alerte. Je mets « Je suis OK ». Quelques secondes après, enfin en fonction de du réseau, il va me répondre « Merci, nous continuons à gérer d'autres appels d'urgence, restez en alerte. » Voilà, alors ça marche avec les attentats, avec les feux, avec les accidents, les raquettes et tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, il y a un gros vocabulaire. Merci à tous.
C'est un système qui permettrait d'être beaucoup plus simple pour les personnes qui n'ont pas forcément appelé le numéro de leur commissariat et le numéro, elles ont 17 mais elles n'ont pas forcément le numéro de leur commissariat.
Non, et ça marche avec Twitter. Plutôt que d'être 20 minutes avec une voix féminine qui vous dit « patientez, nous allons bientôt prendre votre appel », je préfère que des informations passent.
Et puis les gens le supportent de moins en moins.
Ah, mais ça, c'est clair.
Dans le monde va trop vite. Hein, c'est...
Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est que c'est réalisable et qu'on l'a réalisé en prototype. Donc il y a quelque chose à faire et que bon, c'est entre vos mains quelque part, si je peux me permettre.
Merci. Merci beaucoup.
Les mains sont tendues.
Merci beaucoup.
C'est sérieux.
Non, c'est sérieux, c'est un vrai sujet.
On n'est que deux dans notre équipe, on a fait la nuit blanche pour développer de A à Z. Quoi. On a fini là tout de suite. On est entrepreneur dans la même start-up. On a monté une start-up il y a un an. On travaille dans les drones civils. Voilà. La suite, c'est qu'il faut qu'on se mette en contact avec la mairie, peut-être, la préfecture de police, pour essayer de voir, pour faire un prototype d'un niveau professionnel, cette fois, pas d'un niveau étudiant, entre guillemets, et voir si ça peut mener quelque part, quoi. J'ai récupéré beaucoup de cartes, et puis on va envoyer des mails pour proposer des choses, voilà.
J'ai quitté l'école en troisième parce que j'avais envie de devenir plombier. En fait, j'ai fait mon stage de troisième chez un petit artisan qui faisait de la plomberie. Et ensuite, j'ai fait un CAP installateur sanitaire qui correspond à plombier. Je l'ai fait avec lui. J'ai travaillé avec lui pendant 4 mois en tant qu'apprenti. Après, il a eu un petit accident de santé, il a fait un AVC. Il est devenu hémiplégique, du coup il a dû cesser son activité. Et moi j'ai dû trouver une autre entreprise dans l'urgence parce que j'avais 15 jours pour continuer d'apprendre la plomberie à l'école et dans une entreprise. Et j'ai fait 3 mois là-bas, dans cette entreprise. Je n'ai fait que 3 mois parce que j'ai décidé d'arrêter. Et mon rêve c'était de devenir plombier artisan et pas même pas dans des bureaux d'études ou autre. Je n'avais pas envie d'être un ouvrier d'une grande entreprise. Et en plus de ça, pendant mon année de CAP thermique, je me suis fait très mal au dos en vacances. J'étais sans arrêt en train de faire des arrêts maladie, des fois jusqu'à 3 par semaine. Et donc après, vu que j'ai arrêté la plomberie et que je ne pouvais plus travailler dans les métiers du bâtiment, j'ai cherché autre chose, sauf que... Mon rêve c'était plombier, j'avais que ça à l'idée et je voyais rien d'autre. Il y a tellement de métiers dans le monde que c'est dur de... On n'est jamais assez renseigné sur tous les métiers qui existent. Et donc j'ai pris une conseillère d'orientation qui m'a aidé à trouver ce qui pourrait me plaire en fonction de ma personnalité. Avant même d'avoir en tête de faire plombier, je voulais partir sur un bac STI informatique. Et partir là-dedans. Après, je ne sais pas où j'allais, mais c'était ma première idée. Donc, je suis retourné sur cette idée. J'ai plus approfondi ce qui se passait en informatique et le codage de sites web, applications, jeux vidéo ou tout autre logiciel. Ça m'intéressait pas mal du tout. Du coup, ma conseillère d'orientation m'a trouvé une école. Je suis allé aux portes ouvertes. Ils ont fait leur speech. J'ai accroché. J'ai foncé. Quand on va pour visiter une école en porte ouverte, on est dans des salles de classe, c'est fermé, c'est très strict. Là, c'est vous avez envie d'un café, prenez-en un. Vous avez envie de sortir fumer, par exemple, vous pouvez y aller. C'est open space. Si on a un souci, on n'est pas obligé d'aller voir notre formateur. On peut demander à quelqu'un d'autre qui s'y connaît peut-être mieux ou même moins. On parle avec tout le monde. C'est vraiment open space et c'est vraiment... On se lève le matin et on est pressé d'être au boulot, quoi. C'est assez bizarre à dire, mais c'est ça. On peut entrer sans bac, même si on a bac plus 8 ou bac moins 8, on peut y aller. On n'a pas de cours construits. On a des petits cours, des petits exercices à faire tous ensemble avec le facilitateur, mais ce ne sera jamais comme un formateur. C'est pas chaque jour il vient et il a préparé son, son cours. Il est là, on a une question, on lui demande. Mais avant de lui poser une question, il faut avoir cherché au moins 30 minutes sur Internet. Sinon, il nous dit RTFM, ce qui veut dire « read the fucking manuel », donc « va lire le putain de manuel ». Maintenant, j'ai commencé il y a 3 jours, dans une agence d'architecture. Je ne suis que stagiaire, mais c'est ma mission, en gros, d'introduire l'impression 3D, la réalité virtuelle dans cette agence. Ce que je fais, c'est que je vais reprendre les maquettes qu'ils font avec leur logiciel à eux, et je vais les imprimer en 3D. Deuxièmement, je fais de la réalité virtuelle. Donc je vais refaire des bâtiments qui sont en projet ou qui ont été faits. Et je vais faire en sorte que les clients puissent le visiter en immersion 3D. Ce qui me manque dans mon passé de plombier, c'est vraiment le façonnage de cuivre. Faire avec un petit chalumeau, chauffer, former les pièces, ça me manque énormément. Mais bon... Je peux toujours en faire pour mon futur chez moi ou des petits dépannages pour mes amis. Et voilà.
To the playground of your smile, the wind through the frame whistles your name, though you said goodbye. You did not leave my mind. Oh, I've got to get away from this town, don't want to face the ominous clouds. Oh, not now, not now, not now. I've got to find a place, be myself and learn to face the ominous clouds. But not now, not now, not now. I'm gonna sail away, want to look back on the bay and hide with my hand what's left of the land. Though I leave it behind, it will not leave my mind.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le hackathon de l'école 42, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Éric Lancien. Merci à Ahmed, à Victoire, à Patrick, à Rodolphe, à Serge, à tous les participants du hackathon NEC Merguitour, ainsi qu'à Fabienne Haas de l'école 42. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. En ce moment, il y a 2 stagiaires exceptionnellement, Éléonore Geneste et Clara Lacombe. Vos commentaires, on les attend toujours avec impatience sur notre site flambant neuf, franceculture.fr, à la page des Pieds sur Terre. Restez sur France Culture, restez sur notre chaîne, vous le savez, il n'y a pas que les Pieds sur Terre.